La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. La loi du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, restera sans le moindre doute dans l'histoire comme la seule réelle avancée progressiste du mandat de François Hollande. Et c'est aussi dans les manifestations massives et violentes contre cette loi qu'il faut aller chercher l'origine de la mobilisation de segments les plus traditionnalistes de la société française qui ont permis, à la surprise de nombreux observateurs, l'élection de François Fillon comme candidat de la droite pour la prochaine élection présidentielle. Pour comprendre la puissance sociale de ce conservatisme désormais littéralement réactionnaire, il s'agit pour beaucoup de ses opposants au mariage pour tous de revenir en arrière, il faut accepter de prendre au sérieux leurs discours et leurs slogans, s'apercevoir en particulier qu'ils reprennent à leur compte la symbolique républicaine et la rhétorique universaliste. Ce qui ne laisse d'étonner puisque furent l'une et l'autre l'apanage de la gauche tout au long de la construction de la République contre ces conservatismes bontains ou ultramontains. Ceux qu'on désignait, quand l'expression avait encore son sens originel, comme les bien-pensants, ceux qui vont à la messe, si possible, en latin. Comment comprendre ce retournement et bien davantage encore cet évidement des principes et des concepts par ceux qui entendent s'opposer à l'égalité des droits en osant brandir la République ? Sans doute faut-il pour cela se pencher sur la place centrale, depuis la Révolution ou au moins le Code Napoléon, de la catégorie famille dans la politique française. S'interroger aussi sur le rôle du structuralisme ou plutôt des lectures parfois caricaturales qui ont pu être faites de Lévi-Strauss comme de Lacan. C'est cette histoire intellectuelle, politique et sociale que propose Camille Ropsis dans un ouvrage important qui nous parvient enfin dans sa version française, La loi de la parenté, la famille, les experts et la République. Elle est aujourd'hui mon invitée, à la suite dans les idées. Camille Ropsis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous êtes professeure d'histoire à l'université de Cornell aux États-Unis et vous faites paraître donc en français aux éditions Fahrenheit Books la version en langue française de ce livre qui est apparu en 2013 aux États-Unis à Cornell University Press, à laquelle, édition américaine, vous ajoutez une préface française qui prend en compte ce qui s'est passé lors du débat de la loi pour le mariage pour tous et en particulier du côté des opposants à ce mariage, donnant à voir, comme je le disais à l'instant, une rhétorique républicaine, à la fois à travers la reprise d'un certain nombre de slogans, mais aussi de symboles réinterprétés, vidés souvent de leur sens historique, détournés. Mais en tous les cas, ce fut bien ce qui s'est passé dans ces manifestations. Et je voudrais commencer par vous donner l'occasion d'expliquer en quoi ce à quoi vous avez assisté, ce sur quoi vous avez travaillé, qui concerne à la fois cette période contemporaine, mais aussi une période beaucoup plus longue qu'on peut faire démarrer à la Révolution française, en quoi vous y voyez une spécificité française ? Parce qu'au fond, le Parlement européen, vous le rappelez, a, dès 1994, l'Europe n'est pas forcément que la gestion de l'économie, il lui arrive de proposer d'autres choses. Dès 1994, le Parlement européen avait proposé à tous les États membres de l'Union européenne de transformer dans leur droit positif le mariage pour tous. Et il faudra attendre un certain temps, 2013, pour qu'en France ça se fasse, alors qu'ailleurs dans le monde, non seulement en Europe, mais aussi à l'extérieur de l'Europe, on a vu des pays adopter cette législation. Alors comment expliquer d'une part ce retard, en quelque sorte, français, et puis d'autre part, surtout peut-être, les formes du débat, la violence de la contestation de cette loi qu'on n'a pas observée dans les autres pays ?
Oui. En fait, le livre avait commencé comme une étude, donc c'était avant le mariage pour tous, mais avait commencé comme une étude de lois, surtout dans les années 90, qui touchaient à la famille, donc deux lois plus spécifiquement, les lois dites de bioéthique en 1994 et les lois autour du PACS en 1999. Et à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'était, il y avait deux éléments qui m'avaient frappé. Pas tellement le fait qu'il y ait une réaction d'opposition importante, parce que ça, aux États-Unis, on voyait aussi des réactions d'opposition, on en voyait partout dans le monde, mais le premier aspect qui m'avait frappé, c'était le fait que cette controverse tournait tellement autour de la question de la reproduction, et qu'en fait le mariage posait moins problème que le problème de la filiation. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, c'était le type d'argument qu'on entendait à l'époque, et donc que vous rappelez bien, le fait que des députés à l'Assemblée sortaient les structures élémentaires de la parenté pour lire des passages, le fait que le nom de Lacan était invoqué au Sénat par les juges. Et ça, je voyais vraiment une spécificité française sur le coup, parce que on n'aurait pas imaginé aux États-Unis des députés américains citant Lacan ou le symbolique ou le nom du père pour s'opposer à...
Non, mais il faut les citer, parce que c'est vrai qu'on connaît comme téléspectateur le député maire de Maisons-Laffitte, Jacques Myard, parce qu'il participe à des débats en général sur les chaînes d'information. Il est connu pour avoir ses cravates rouges en particulier. on ne le perçoit pas spontanément comme un intellectuel. Et à l'Assemblée nationale, il a cité Lévi-Strauss, rappelé que les fondements anthropologiques de notre société sont constitués de deux piliers, la différence des siècles, la différence des générations, voilà. Que tous les autres anthropologues, tous les ethnologues ont dit ça. De la même façon, le député maire de Courbevoie, Jacques Kosowski, même chose, qui lui se tourne vers Lacan et cite la psychanalyse. Enfin, c'est quand même assez surprenant. Je sais bien qu'il y a des gens qui préparent les discours, qui font les notes. Je suis pas sûr qu'ils aient lu dans le texte ces grands penseurs français, mais c'est vrai que c'est très surprenant.
C'était surprenant et c'était justement cet aspect qui demandait plus d'explications et pourquoi ces arguments du structuralisme, cette lecture particulière du structuralisme est devenue un des arguments principaux pour opposer non seulement le mariage ou les unions pour personnes de même sexe, mais surtout la possibilité de l'homoparentalité, qui évidemment a été laissée en suspens par le PACS et est revenue en 2013 quand le livre est sorti avec la Manif pour tous.
Alors ça, c'est passionnant parce que ça permet de faire à la fois une histoire sociale, une histoire politique, mais aussi une histoire des sciences sociales, de leurs effets dans le débat public, des effets littéraux, parce qu'il y a eu utilisation de ces ressources, de concepts. Alors, encore une fois, souvent, ces concepts sont dans des acceptions un peu sauvages par rapport à celles formulées par les auteurs. Néanmoins, il y a des passeurs, il y a des circulations, et ces figures, d'ailleurs, du passage, ceux qui sont à l'articulation des théories de ces deux grandes figures de la pensée du XXe siècle, que sont Claude Lévi-Strauss et Jacques Lacan, occupent des rôles importants. C'est d'autant plus frappant qu'au fond, et vous le remarquez aussi très très vite, aussi bien Lacan que Lévi-Strauss ne sont pas des intellectuels spécialement engagés en politique. On n'a pas manqué d'intellectuels qui étaient à la fois des gens très sérieux et en même temps des gens très engagés. Mais c'est pas le cas ni de l'un ni de l'autre. Enfin, après une jeunesse où Claude Lévi-Strauss a été assistant parlementaire socialiste, il a été très engagé dans les années 30, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il n'intervient plus véritablement dans le débat public sous un mode engagé. Et on peut dire la même chose de Lacan, alors même que beaucoup de ses disciples, eux, sont dans l'extrême-gauche, après 68 en particulier.
Oui, tout à fait. Et donc il y avait ce paradoxe, le fait que non seulement Lévi-Strauss et Lacan ne parlaient pas vraiment de politique, surtout dans leur période plus structuraliste, mais aussi le structuralisme était une manière un peu de laisser de côté la politique et de créer une nouvelle discipline en anthropologie et en psychanalyse qui justement éviterait ce côté un peu plus polémique, mettons, que l'anthropologie avait eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en plus, ni Lévi-Strauss ni Lacan ne parlent vraiment de famille réelle. Enfin, ils parlent de parenté ou de la structure du sujet, mais il n'y a pas vraiment de discours autour du père réel ou de la mère réelle. D'ailleurs, c'est pour ça que Lacan invente la notion justement du nom du père, pour mettre une distance par rapport au père biologique. Enfin, donc je crois que ce qui était compliqué avec ces textes, ce sont des textes extrêmement complexes quand même. Et le fait qu'ils soient repris de manière comme si les notions étaient évidentes, encore une fois, était très bizarre. Et donc, en effet, ce que je propose dans le livre, c'est j'étais un peu frustrée par plusieurs lectures symptomatiques qu'on entendait à l'époque de dire oui, en fait, ces débats révèlent la misogynie profonde ou le patriarcat profond de Lévi-Strauss et de Lacan ou le conservatisme. Et je crois que c'était une manière de lire les textes, mais ce n'est pas la seule manière. Encore une fois, les textes sont compliqués et il y a des éléments dans le texte qui permettent d'autres lectures de ces textes. Mais toutefois, ce qui m'intéressait dans cet ouvrage, c'était le fait que ces idées ont été amenées dans le contexte politique à travers des figures que j'appelle donc des figures de passeurs, qui ont eu des rôles directs dans le gouvernement, dans la politique familiale, et que c'est à travers ces figures que, en fait, les idées de Lacan et de Lévi-Strauss ont été amenées et ont vraiment eu un impact direct sur la législation, sur le droit.
Alors là, je fais un écho, parce que l'émission s'appelle La Suite dans les idées, c'est aussi pour faire des liens. Ça me rappelle ce que disait assez récemment dans cette émission un sociologue qui est professeur à Montréal, Nicolas Salé, qui travaillait sur la politique de protection judiciaire de l'enfance, où on voyait bien aussi la manière dont la psychanalyse là encore, spécificité française, a été recyclée dans des formes parfois caricaturales, dans des politiques publiques.
Voilà.
Et on a la même chose. Alors, qui sont ces passeurs qui vous ont intéressé, qui ont permis l'importation de versions un peu caricaturales de ces concepts dans la politique familiale française?
Alors, il y en a plusieurs dans le livre, parce que je commence en fait à m'intéresser à eux dès les années 1930. Je commence donc avec un personnage qui s'appelle Georges Moko, qui était un démographe de formation et spécialiste de l'immigration. Et encore une fois, il y a une relation très intéressante entre politique familiale, politique d'immigration qui traverse un peu le livre autour de la reproduction de la nation. Quelle nation est-ce que l'on veut imaginer? Et donc, Moko était en parallèle psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris, et suivait les séminaires de Lacan et a participé au Haut Comité de la population et de la famille, qui était un des organismes qui a écrit le Code de la famille en 1939. Et ce qui, dans ces archives qui sont aux archives nationales, que j'ai exploré pendant longtemps. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il a une correspondance extensive avec plusieurs ministres aux affaires au plan, aux affaires sociales, logement, affaires économiques. Et c'était pas seulement des échanges logistiques, c'était aussi des échanges intellectuels. Alors il leur envoyait son livre sur le rôle du père et les ministres lui répondaient en lui disant merci pour m'avoir rendu sensible au problème de l'Oedipe chez l'enfant de 7 ans, etc. Donc il y avait vraiment des échanges intellectuels que l'on peut tracer à travers ces documents, que je trouvais très, très, très intéressant. Donc Moko est une figure importante dans le livre. Une autre personne que vous qui est peut-être plus connue, c'est Françoise Dolto, qui a été évidemment une psychanalyste extrêmement importante, très proche de Lacan, qui encore une fois, je ne sais pas si elle était lacanienne ou pas lacanienne, mais en tout cas elle utilisait des notions lacaniennes et un vocabulaire lacanien dans ses réponses à la radio justement aux parents qui lui écrivaient, qui lui demandaient conseil. Donc, et en parallèle, Dolto a eu un rôle très important dans plusieurs comités autour de la famille, par exemple autour de la réforme du divorce, autour de la garde des enfants. Et encore une fois, par exemple, j'ai regardé en détail sa correspondance avec Monique Pelletier, qui était ministre de la Famille et de la Condition Féminine à l'époque, où elle cite Françoise Dolto et les deux échangent des idées, encore une fois, pas seulement des détails pratiques, mais vraiment des idées. Et donc petit à petit, je crois qu'on peut voir des points de convergence entre idées et politiques vraiment très concrets.
On peut voir au fond se dessiner peu à peu une sorte de culture générale partagée,
voilà.
Dans laquelle les sciences humaines et sociales occupent une place, et des sciences humaines et sociales vulgarisées et souvent caricaturées. Et c'est ces versions-là qui vont finir par se retrouver dans le débat public, y compris dans les textes de loi, ces traces-là que vous allez identifier après dans la loi sur la bioéthique, dans la loi sur le PACS et puis plus tard lors du débat autour du mariage pour tous, Camille Ropsis.
Tout à fait. Et par exemple, Françoise Dolto, déjà dans les années 70, parlait de l'importance d'avoir le nom du père pour les enfants et suggérait qu'un enfant qui n'avait pas le nom du père pouvait avoir une désignification complète ou quelque chose comme ça. Donc et on voit comment ces termes se retrouvent dans les débats des années 90. Et donc, autour du PACS et de la loi de bioéthique, il y a aussi eu énormément de passeurs. Passeurs, c'est un autre mot pour parler des experts qui ont été appelés par le gouvernement pour justement discuter de ces questions. Et là, il y a eu beaucoup d'anthropologues, beaucoup de psychanalystes qui ont joué un rôle très, très important pour donner au gouvernement les débats qui, finalement, ont fait passer les lois, mais ont aussi limité les lois de manière très importante.
Alors, on comprend mieux cette spécificité française quand on sait aussi le poids que la psychanalyse a eu et continue, d'une certaine façon, d'avoir en France, alors que c'est, on peut dire qu'elle est quasiment rayée de la carte de la planète, enfin, à l'exception peut-être de l'Argentine.
Voilà. Hein. Ça. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est non seulement la spécificité de la psychanalyse, mais de ce type de psychanalyse, parce que aux États-Unis, par exemple, encore, les psychologues ont joué un rôle très important lors des débats autour, par exemple, de la décision de la Cour suprême qui a légalisé le mariage pour personnes de même sexe aux États-Unis. Donc, il y a eu plusieurs psychologues qui ont parlé, plusieurs anthropologues qui ont parlé. Mais en général, ils s'appuyaient sur leur travail empirique pour dire, voilà, nous, on a étudié les sociétés, on a étudié les enfants qui naissent dans des familles homoparentales, et puis voilà, ils se portent ni mieux ni pire que les autres.
Des individus concrets.
Voilà, exactement, des individus concrets. Alors que là, on parlait
des concepts abstraits,
de culture, de pensée, et donc ça, c'était très, très différent. C'est du symbolique, enfin, avec un grand S, et donc.
Oui, beaucoup de mots avec des majuscules.
Beaucoup de mots de la loi.
De la République avec un grand R. évidemment.
Voilà. Ouais.
Mais alors, tout ça n'aurait pas été non plus possible en France si il n'y avait pas eu avant, bien avant l'anthropologie, bien avant la psychanalyse, la mise en place de ce que vous appelez, après d'autres, hein, je pense à Rémy Lenoir ouais. notamment, le familialisme, c'est-à-dire cette façon très 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 particulière de considérer dans la politique française la famille comme une catégorie politique et juridique, bien sûr, sur laquelle l'État ou la nation va s'appuyer pour se construire. Et ça, c'est une histoire qu'il faut faire remonter à la Révolution française si on veut vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est ce que vous faites dans votre livre. Vous vous intéressez aussi à cette histoire de plus long terme, Camille Ropsis.
Oui, voilà, parce que je crois que c'est là où le contexte français est très important. La spécificité de l'histoire française et de l'histoire de la culture politique française, de la culture légale française, juridique, parce que, pour expliquer pourquoi ces arguments ont trouvé un écho dans la politique. Je ne dis pas qu'il y ait une relation de cause à effet, mais plus de convergence d'arguments. Et en effet, les deux textes que j'analyse de plus près, c'est le Code civil, donc de 1804, dont l'ambition est justement de placer la famille comme condition nécessaire pour le social. On voit bien, c'était l'ambition de Napoléon, mais de Portalis aussi, qui, quand ils écrivent le Code civil, veulent redonner aux Français des corps intermédiaires pour pas que les passions redeviennent un peu folles et ramènent à une forme de terreur. Donc la famille est une des institutions avec la propriété pour essayer de re-encadrer les sujets, les individus. Et le deuxième texte, j'examine en détail, c'est le Code de la famille de 1939 qui aussi établit les bases de la politique familiale qui après sont repris dans la sécurité sociale, qui encore une fois présente la famille comme la solution à la question sociale française à l'époque. Donc c'est une histoire compliquée qui est passée, le Code est passé aussi au moment de la crise de dépopulation en France. Donc
on comprend mieux là, même la création de l'Institut National d'Études Démographiques, voilà. Par exemple, qui est très liée à ce souci nataliste français, avec une véritable politique nataliste, chose qui n'existe pas nécessairement. Souvent, quand on vit en France, on a du mal à ne pas voir que ce n'est pas une chose nécessairement partagée dans d'autres États, qu'il existe des États dans lesquels l'État ne se mêle pas de savoir combien d'enfants ont les uns les autres. Alors si, en Chine, mais voilà. Peut-être en Chine et en France, quoi,
voilà,
pour des raisons inverses, en fait.
Oui, c'est ça. Et je crois aussi encore qu'il y a des raisons tout à fait historiques pour cette intérêt de l'État à la natalité. Ce qui était intéressant, c'est que c'est un intérêt qui a quand même duré très longtemps, parce que c'est un intérêt qui commence donc dans
et qui dure à certains égards.
Tout à fait.
Quand on voit les débats autour des allocations familiales, il reste extraordinairement vif dans ce pays.
Et quand même, le code donc est passé en 1939, survit Vichy évidemment, parce que Vichy est très intéressé, au contraire, à renforcer le code. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la Libération, et Rémy Lenoir en parle aussi dans son livre, mais à la Libération, De Gaulle, qui est un grand nataliste, et le Conseil de la Résistance, essaye de trouver des moyens pour garder le code de la famille sans ses aspects plus fascisants. Mais enfin, comment la question de garder le social de Vichy sans garder le côté plus négatif, mettons, de Vichy. Et je crois qu'il y a un travail, encore une fois, très intéressant qui est fait à cette époque, et qui est là, mais la Libération et la Quatrième République reprennent les grands traits de la politique familiale de l'avant-guerre.
Alors, on voit bien les enjeux de votre livre. Il s'agit de comprendre, au fond, comment certaines idées, certaines théories ont pu infuser dans le débat politique et aboutir à des textes de loi. Et s'ils ont pu le faire, c'est parce qu'ils étaient, en quelque sorte, congruents avec une manière de placer la famille au centre de la structure sociale. On pourrait presque parler de la structure familiale de la République, en quelque sorte, la structure élémentairement familiale de la République. On pourrait s'amuser à parodier le titre du grand livre de Lévi-Strauss de la sorte. Et du coup, ça a eu des effets, et ça continue d'avoir des effets aujourd'hui, dans ce type de débat, qui permettent d'expliquer donc cette singularité, cette vivacité du débat, avoir cette violence qui a pu s'exprimer dans le débat au moment de la loi sur le mariage pour tous. Je voudrais qu'on revienne sur un aspect que vous avez juste mentionné, qui est le rapport avec la question de la nationalité, avec les étrangers, et la manière aussi dont, évidemment, ça s'articule avec, du coup, une forme de racialisation. Et vous expliquez bien que c'est pas tout à fait un hasard si Christiane Taubira a fait l'objet d'attaques racistes, violentes, si aussi ces manifestations ont été l'occasion d'expressions d'antisémitisme extraordinairement violent également, tout ça étant parfaitement cohérent d'une certaine façon. Il ne faut pas oublier qu'on a tendance à appeler loi Taubira cette loi pour le mariage pour tous, mais la loi Taubira, c'était la loi de reconnaissance de l'esclavage qui lui avait précédé, Camille Ropsis.
Oui, je crois que ces débats montrent bien... Enfin, le vrai enjeu de ces débats, c'est la question de la reproduction, non pas biologique, mais sociale de la nation. Et donc, il y a une dimension de genre et il y a une dimension aussi raciale de la reproduction. Donc, je crois qu'en fait, immigration et famille ont été intermêlées depuis le début. Enfin, on le voit à travers quelqu'un comme Moko, mais jusqu'à maintenant. Et donc, je crois que le fait que ces débats ont repris, autour de la famille, ont repris une telle vigueur dans les années 80... Ce n'est pas non plus anodin, c'est quand même un moment où en France on commence justement à se demander, le problème de l'immigration prend le dessus de la scène
politique.
Oui,
on a déjà fermé les frontières depuis 1974. Exactement. Et à partir de cette date, voilà, les choses
ont changé.
Avec la montée
du Front National, etc. Donc ça devient un enjeu très important. Et oui, je crois qu'en effet, pendant les débats de la Manif pour tous, les posters, la campagne a vraiment mis son doigt dessus sur la relation entre famille et nation. Il y a par exemple, je pense, à un des posters de la Manif pour tous qui disait « on ne lâche rien » et qui commençait avec « filiation-fiction ». Et qui finissait avec démocratie confisquée. Donc l'idée que sur la filiation reposait la démocratie et que si on laissait tomber la filiation, tout se cassait la figure. Enfin, c'était ça, que la famille était donc non seulement importante pour le social, parce que ça on peut le dire de tous les pays à la limite, enfin tous les pays accordent une place importante à la famille, mais que la famille était constitutive du social et que si la famille hétérosexuelle n'était plus protégée, le modèle politique français, le modèle social français, mais aussi un modèle psychique, si l'on peut dire, tout ça tombait à l'eau.
Tout ça n'est pas un débat totalement clos. Comme je le disais en commençant, ceux qui ont perdu la bataille avec le vote de cette loi se sont mobilisés dans les urnes de la primaire de droite. Ils ont désormais un candidat qui se dit proche de ses idées. D'une part, et d'autre part, il y a évidemment toutes les questions laissées en plan par cette loi qui n'est pas allée jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à s'occuper de la question de la reproduction, de l'affiliation et de la GPA en particulier, Camille Ropsis.
Oui, la campagne de la Manif pour tous et des groupes autour de la Manif pour tous était principalement axée sur le problème de la GPA, de la PMA, alors que la GPA, le gouvernement n'en a jamais parlé et que la PMA était très limitée dans... Donc, et que finalement, le gouvernement n'a pas touché à la question de la PMA, a dit on l'a reporté pour après. Donc, c'était aussi intéressant cette idée que tellement de la controverse tournait autour de la GPA et de la PMA qui ne faisait même pas partie de la loi. Mais oui, je crois qu'en effet, maintenant, les questions vont ressurgir parce qu'il y a aussi un problème de discordance avec le droit international, avec le droit européen et des cas, de plus en plus de cas qui se présentent devant la Cour internationale des droits de l'homme, etc., où ces enfants qui existent déjà ne sont pas reconnus par l'État.
Oui, là encore, de discordance entre les concepts ou les catégories juridiques et puis des réalités.
Tout à fait.
Qui ne sont pas seulement des réalités politiques, mais qui sont aussi des réalités humaines, tout
voilà.
Simplement.
Et d'où un débat aussi pour savoir si le droit doit être là pour refléter et pour accommoder la réalité sociale qui existe, ou doit être là pour présenter des normes transhistoriques, absolues, transcendantales, et vraiment former le sujet. Et je crois que c'est tout ce débat qui est en jeu.
Alors, en vous lisant, je me suis dit que j'avais envie d'ajouter une dimension, au fond, d'explication à ce que vous dites, qui n'est pas du tout contradictoire, qui viendrait la compléter, c'est-à-dire qui viendrait permettre de comprendre comment il peut y avoir eu détournement ou arraisonnement de la logique républicaine universelle par les opposants au mariage pour tous. C'est-à-dire que ça me semble participer, au-delà de cette question du mariage d'ailleurs, d'une stratégie politique qui a été formulée dès les débuts des années 80 par la Nouvelle Droite en particulier, qui consiste à tenter de récupérer l'hégémonie culturelle, pour parler comme Antonio Gramsci, et du coup à reprendre à la gauche ses concepts, son vocabulaire. C'est aussi ce qu'on voit avec, je ne sais pas, le livre de Monsieur Buisson qui paraît ces temps-ci et qui s'appelle « La cause du peuple », slogan maoïste du début des années 70. Et de la même façon, où les Républicains, comme se nomme ce parti, en cherchant à associer la République à un seul parti, alors que la République, c'est a priori ce que tous les partis politiques devraient avoir en commun, Camille Ropsis.
Oui, même le Front National, maintenant, se revendique de la République. Donc, il y a ce côté où la République, le sens de la République, je crois qu'encore une fois, le sens de la République est vraiment en jeu dans ces débats. C'est-à-dire que lors du mariage pour tous, le fait que les manifestants se déguisaient en Marianne pour défiler dans la rue, c'était quand même très très bizarre, surtout étant donné que l'Église a combattu quand même la République pendant très longtemps, que maintenant la République soit associée à ces idées. Et donc je crois que ça montre bien l'enjeu, en effet, que ces groupes-là ont repris beaucoup de la thématique de la gauche, les posters de mai 68, les slogans, les actions politiques, les apps.
Repris des choses à Act Up, par exemple.
Repris des choses à Act Up, tout à fait. Le fait d'aller camper sur les champs, enfin de faire le camping pour tous, etc. Mais que les deux mouvements, en fait, ont été intelligents parce que du côté du oui, la loi a toujours été présentée dans une perspective universaliste qui correspondait à la culture du républicanisme universel français. Donc le mariage pour tous, pas le mariage homosexuel, mais bien un mariage pour tout le monde. Le Pax aussi était pour tous. Et de l'autre côté, on pouvait pas leur reprocher d'être communautariste puisque c'était pour tous. Et donc la bataille s'est jouée au niveau de l'universalisme. Est-ce que l'universalisme était hétérosexuel ou est-ce que c'était un universalisme qui pouvait justement accueillir d'autres types de familles, d'autres types de parenté?
On voit bien toutes les questions que ça pose à la gauche. Évidemment, cette situation nouvelle, une gauche qui ne semble pas avoir véritablement pris la mesure de ce bousculement, en quelque sorte, et qui a continué à avancer un peu timidement, en dépit de quelques prises de parole, et je pense notamment à celle, évidemment, de Christiane Taubira. Un des enjeux de votre livre, je voudrais qu'on termine là-dessus, Camille Ropsy, c'est aussi un enjeu épistémologique. C'est aussi comment faire de l'histoire aujourd'hui en accordant la bonne place, la juste place aux idées. C'est évident que ce ne sont pas toujours les idées qui transforment le monde, mais elles peuvent jouer un rôle et toute la question est de savoir exactement, très précisément, comment ça se passe.
Oui, voilà, c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, de comprendre comment certaines lectures de certaines idées ont été très importantes et d'essayer aussi de restaurer la complexité de certaines idées et de voir comment d'autres lectures sont différentes, d'autres visions de la société peuvent être différentes en partant de ces mêmes idées.
Merci beaucoup, Camille Ropsy.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, La loi de la parenté, la famille, les experts et la République, un texte passionnant pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve au regard d'une histoire assez longue, au regard d'une histoire des sciences sociales aussi, et un texte et un regard qui vient des États-Unis, c'est-à-dire d'une position extérieure et en même temps très familière à la langue française, à l'histoire des sciences sociales françaises. Merci. Beaucoup, on trouve les références sur la page de la suite dans les idées, sur le site de France Culture, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission autant de fois que vous le voulez et aussi longtemps que vous le voulez, et une page sur laquelle vous pouvez aussi vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, à la technique. Aujourd'hui Bernard Laniel, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et c'est Étienne Klein que l'on retrouve dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour la conversation scientifique.